Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et ce fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes au chapitre 18 du volume 5 de Monseigneur Gaume sur la Révolution. Monseigneur Gaume va étudier d'Alembert, un autre encyclopédiste. Et il nous dit que il a été trouvé comme enfant exposé devant une église le 16 novembre 1717, mais que c'est une brave femme d'un pauvre vitrier, qui l'éleva avec une sollicitude maternelle. Fumiant pension à 4 ans. Et à 10 ans, il connaissait si bien ses auteurs classiques que son maître déclara qu'il n'avait plus rien à lui apprendre. Il fut passionné des belles-lettres, et surtout passionné par la poésie latine, à laquelle il donnait tous les moments que lui laissaient les occupations de la classe. Donc c'était un enfant prodigieusement intelligent. Je sais bien que le niveau intellectuel à ces temps-là, en ces temps-là, était très largement supérieur au niveau intellectuel d'aujourd'hui. Mais enfin, quand même, un enfant de 10 ans qui est déjà maître dans la poésie latine, c'est quand même pas tous les jours que ça se rencontre. Cependant, Monseigneur Gaume fait la remarque suivante: la place était prise dans l'âme du jeune d'Alembert. Et le jansénisme de ses professeurs n'y eut pas plus d'accès que la doctrine catholique du père Poret dans celle de Voltaire et d'Helvétius. Donc il avait été élevé dans un collège, au collège Mazarin, et ses maîtres étaient des jansénistes fanatiques. Le jansénisme, donc, saint François de Sales l'appelait l'hérésie de glace, qui détruit complètement la miséricorde du bon Dieu, ne garde que sa justice. Donc, à peine sorti du collège, d'Alembert se lia étroitement avec Voltaire et d'Helvétius, ainsi qu'avec Condorcet et Diderot. Belle équipe. Ici, on se demande comment des jeunes hommes soumis à des influences si opposées, venant de collèges si différents, se trouvent-ils sans effort et comme naturellement en harmonie de sentiments et de pensées. Tout simplement parce que qui se ressemble s'assemble, dit Monseigneur Gaume. Il est facile de voir que, malgré les leçons contradictoires de leurs professeurs en soutane, leur éducation a été la même. Qu'ils aiment, qu'ils admirent, qu'ils regardent comme leurs maîtres et leurs oracles, les grands hommes de l'Antiquité. Et leur vie tout entière ne sera qu'un éloge continuel de l'Antiquité païenne, de ces grands hommes et de ces grandes choses, un mépris, une haine non moins continuelle pour les jésuites, les jansénistes et le christianisme lui-même. Parce que ces jeunes gens avaient parfaitement compris que l'admiration des grands hommes de l'Antiquité était incompatible avec le véritable catholicisme. Donc d'Alembert se fit d'abord recevoir comme avocat, puis médecin, puis se livra avec ardeur aux mathématiques, sans oublier jamais Tacite, dont il était admirateur passionné. Ses ouvrages mathématiques sont sans contredit le véritable fondement de sa gloire et le place avec Euler parmi les plus célèbres géomètres de son siècle. C'était un jeune homme prodigieusement intelligent. Et il rentra en 1754 à l'Académie française. L'éducation du collège qui n'avait point armé l'esprit de d'Alembert contre l'incrédulité, avait à plus forte raison laissé son cœur sans défense contre les attraits de la volupté. On retrouve toujours les mêmes chemins par lesquels le démon rentre dans les âmes. D'abord, l'orgueil intellectuel et qui entraîne les grands péchés contre la pureté. Donc, D'Alembert va aimer éperdument une jeune demoiselle qui s'appelait Mademoiselle de l'Espinasse, mais qui meurt très vite, en 1776. Donc, la même absence de christianisme se retrouve dans les œuvres littéraires et philosophiques de D'Alembert. Ce n'est pas assez. La haine du christianisme y marche de front avec l'admiration pour l'Antiquité classique. Donc, rappelez-vous, cette admiration de l'Antiquité classique entraîne toujours deux conséquences. Première, la haine du christianisme. Deuxième, la haine de la royauté. Dans ses ouvrages, D'Alembert et Voltaire font un déplorable assaut de mépris pour la religion chrétienne. D'Alembert est reçu à ce moment-là dans tous les salons à Paris. Il met Voltaire au fait de tout ce qui se passe à Paris, lui donne des conseils utiles à leur cause, lui indique des sujets à traiter, des hommes à tourner en ridicule, applaudit à ses sarcasmes et se montra l'ardent apôtre de la philosophie. Donc, dans son discours préliminaire de l'encyclopédie, qui tient le premier rang parmi les œuvres littéraires de D'Alembert, c'est tout un programme scientifique du matérialisme et du naturalisme païen qui est démontré, qui est donné. Encore une fois, ce matérialisme est issu du naturalisme païen. Pourquoi ? Parce que le naturalisme païen crée des âmes athées. Une fois que l'athéisme est rentré dans une âme, évidemment, la voie est ouverte au matérialisme. Il faut bien adorer quelque chose, donc on adore l'homme au lieu d'adorer Dieu. Donc D'Alembert va étudier comme principe de toutes les connaissances humaines le sensualisme de Locke, grossièrement renouvelé des philosophes païens. Donc le bel idéal céleste surnaturel n'existant plus, la mission des arts sera de chercher, dit-il, dans toutes les parties de la nature, le beau, sensible, le palpable, le matériel. Le reproduire fidèlement, quel qu'il soit, sera leur gloire, flatter les sens, leur terme final. Jouir, jouir, jouir. Jamais souffrir, jamais mourir. On retrouve toujours les mêmes idées. À la tête des connaissances, donc, qui consistent dans l'imitation, doivent être placées, dit D'Alembert, la peinture et la sculpture, parce que ce sont celles de toutes où l'imitation approche le plus des objets qu'elle représente et parle plus directement au sens. Donc ces arts expriment indifféremment et sans restriction toutes les parties de la belle nature et la représentent telle qu'elle est. Donc là, évidemment, cela va amener à l'apologie du nu sur toutes ses formes et dans toutes sortes d'objets. Ça va amener aussi au matérialisme de l'art, sacerdoce divin qu'il était. Et de sacerdoce divin qu'il était, sa transformation en prédicateur d'iniquité. Ainsi l'ont très bien compris les artistes de la Renaissance. On retrouve toujours les mêmes choses. Comme quoi, la grande protection contre la corruption de l'intelligence reste l'état de grâce. Si on est en état de grâce, eh bien, il est beaucoup plus facile de se protéger de ses erreurs philosophiques. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai déjà expliqué avec Mgr Gaume, les erreurs philosophiques entraînent toujours des graves péchés contre la loi du bon Dieu, notamment les péchés de sensualité, péchés graves d'impureté. Si quelqu'un vit en état de grâce, pour être en état de grâce, eh bien, il faut vivre dans la pureté. Vivant dans la pureté, il est beaucoup plus facile pour l'âme d'une personne pure d'éviter les miasmes du matérialisme et de l'Antiquité païenne. Donc, quelles sont, suivant D'Alembert, l'origine, la généalogie, la mission des sciences et des arts ? Alors, quelle en est l'histoire ? Les littérateurs philosophes l'exposent dans la seconde partie de son discours. Donc, je résume ce que dit Mgr Gaume. Cette histoire n'a que deux pages. La première, c'est l'Antiquité grecque et romaine, et la seconde, l'époque moderne postérieure à la prise de Constantinople en 1453. Avant et après, le reste est barbarie. Donc, Mgr Gaume a déjà expliqué, je vous le rappelle, qu'après la prise de Constantinople, des tas d'artistes ont dû quitter Constantinople pour être accueillis, surtout en Italie, et apporter avec eux justement le matérialisme, le sensualisme de la Renaissance. Donc, ce sensualisme va tirer, dit-il, le monde de la barbarie dans lequel l'Évangile l'a laissé pendant 1000 ans. Et grâce à son influence salutaire, tout a repris la vie. L'esprit littéraire est son premier bienfait, l'esprit artistique est le second, et le troisième, l'esprit philosophique. Donc ça, c'est toute la généalogie de ces philosophes des Lumières. Quand on parle de philosophie des Lumières, on désigne les encyclopédistes, et cette philosophie des Lumières, évidemment, s'oppose à la philosophie des Ténèbres, laquelle est la philosophie de saint Thomas d'Aquin, le réalisme et l'objectivisme. Donc l'esprit philosophique de ces Lumières est le règne de la raison, qui ramènera ainsi dans les temps modernes les Lumières, la liberté, le bonheur, en un mot, les beaux jours de Rome, d'Athènes et de Sparte. Donc, comme celui de tous les renaissants, son dithyrambe débute par une insulte obligée au christianisme, dont le règne est inévitablement celui de la barbarie, de la superstition et de l'esclavage. Alors, d'où viennent ces trois fléaux ? De ce que les siècles chrétiens avaient cessé d'étudier, dit-il, les grands modèles de l'antiquité païenne, dont ils croient sérieusement que le monde ne peut se passer. Monseigneur Gaume cite d'Alembert. La plupart des beaux esprits de ces temps ténébreux se faisaient appeler poètes ou philosophes. Que leur en coûtait-il, en effet, pour usurper deux titres dont on se parle à si peu de frais et qu'on se flatte toujours de ne guère devoir des lumières étrangères ? Ils croyaient qu'il était inutile de chercher les modèles de la poésie dans les ouvrages des Grecs et des Romains, et ils prenaient pour la véritable philosophie des anciens une tradition barbare qui la défigurait. Ça, c'est la tradition catholique. Qu'on joigne à ce désordre l'état d'esclavage où presque toute l'Europe était plongée, les ravages de la superstition, du catholicisme, qui naît de l'ignorance et qui la reproduit à son tour. Et on verra que rien ne manquait aux obstacles qui éloignaient le retour de la raison et du goût, car il n'y a que la liberté d'agir et de penser qui soit capable de produire de grandes choses. On voit très bien que ce sont des collages, si vous voulez, un copie-coller de tout ce qu'enseignait déjà, surtout Voltaire. Aussi, fallut-il au genre humain, pour sortir de la barbarie, une de ces révolutions qui font prendre à la terre une face nouvelle. L'Empire grec est détruit, sa ruine fait refluer en Europe le peu de connaissances qui restait encore au monde, et la lumière renaît de toutes parts. On dévore alors sans distinction tout ce que les anciens nous avaient laissé dans chaque genre. On les traduisit, on les commenta, et par une espèce de reconnaissance, on se mit à les adorer. Alors, il faut répondre ici à une objection qu'on entend souvent. Les gens me disent, mais monsieur l'abbé, vous parlez de la grandeur de la philosophie thomiste, la philosophie de saint Thomas d'Aquin, mais saint Thomas d'Aquin avait repris des textes, par exemple, d'Aristote. Oui, c'est exact. Mais il avait repris les textes d'Aristote dans ce qu'Aristote avait de bon, et il avait catholicisé totalement le tout. Alors qu'au contraire, les encyclopédistes vont reprendre les textes de Platon et d'Aristote, et Cicéron par exemple, mais sans en rien changer, on les prend tels quels. Et donc ils vont attraper le poison. Donc c'est vraiment l'adoration de l'antiquité païenne, de l'antiquité athée. Donc, tous les arts datent de la même époque et viennent de la même source. Les beaux-arts, dit d'Alembert, sont tellement unis avec les belles-lettres que le même goût qui cultive les unes porte aussi à perfectionner les autres. Dès qu'on commença à étudier les ouvrages des anciens en tout genre, les chefs-d'œuvre antiques, qui avaient échappé en assez grand nombre à la superstition et à la barbarie catholique, frappèrent bientôt les yeux des artistes éclairés. Donc on voit très bien, c'est clair, dans tous ces encyclopédistes qui veulent une révolution en tout. Pas simplement dans la littérature et la poésie, mais aussi dans l'art et dans toutes les sciences. Et donc cela doit nous faire comprendre qu'un contre-révolutionnaire doit lui aussi être contre-révolutionnaire en tout. Il ne s'agit pas simplement d'être contre-révolutionnaire en matière religieuse. Il faut aussi être contre-révolutionnaire dans l'art, dans la poésie, dans la littérature, en tout. Souvent, je rencontre des jeunes qui me disent « Monsieur l'abbé, moi je suis contre-révolutionnaire parce que je vais à la messe traditionnelle le dimanche et que je dis mon chapelet tous les jours. » Mais ça ne suffit pas. À quoi ça sert d'aller à la messe traditionnelle tous les dimanches, de réciter son chapelet tous les jours, si dans tout ce qu'on fait, on reste imprégné des idées de la Renaissance. Et donc, si je vais à la messe tous les jours ou toutes les semaines, mais que je reste imprégné de ces idées de la Renaissance, eh bien, je vais tomber dans le matérialisme, dans le naturalisme de ces artistes antiques. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc un contre-révolutionnaire n'est pas simplement, encore une fois, quelqu'un qui va à la messe le dimanche ou quelqu'un qui lit son chapelet tous les jours. Un contre-révolutionnaire, c'est quelqu'un qui va à la messe traditionnelle le dimanche, bien sûr, qui se confesse régulièrement. Mais c'est aussi quelqu'un qui, dans tout ce qu'il fait, dans sa vie sociale, dans sa vie familiale, dans sa vie professionnelle, évite comme la peste le poison du naturalisme. Alors, si par exemple, je suis toujours en train d'étudier les auteurs païens, bien, je vais prendre le poison du paganisme. Si je prétends être catholique, mais que je m'habille comme les mondains, je vais prendre l'esprit mondain. Donc, un contre-révolutionnaire, c'est quelqu'un qui doit être contre-révolutionnaire en tout. Il ne s'agit pas simplement d'être contre-révolutionnaire en matière religieuse, il faut aussi l'être en matière politique, en matière artistique, dans tout ce que l'on fait, parce que la révolution met son poison absolument partout. Donc le contre-révolutionnaire doit enlever ce poison de toutes les sciences, naturelles et surnaturelles. Donc Voltaire, Rousseau, Mélenchon, Mably, D'Alembert, tous les lettrés philosophiques, hérétiques et révolutionnaires adressent donc d'une voix unanime le même compliment à la chrétienne Italie. Elle doit en être d'autant plus flattée que jamais il ne leur arrive de la féliciter d'être le foyer doit rayonner sur le monde la lumière évangélique et la civilisation chrétienne. N'oubliez pas qu'après Antioche, Saint-Pierre est allé à Rome. Et c'est de Rome qu'est partie l'évangélisation du monde. Alors d'où vient ce mystère ? Pourquoi est-ce que ces révolutionnaires n'admirent que la Rome païenne et ne veulent rien entendre parler, ne veulent pas entendre parler de la Rome chrétienne ? D'où vient ce mystère ? Se pose Mgr Gaume comme question. Ne serait-ce pas qu'à leurs yeux, la Renaissance est tout autre chose que le rayonnement de l'Évangile, autre chose que le développement de la civilisation chrétienne, autre chose en un mot que le christianisme dans les lettres, dans les arts, dans la philosophie. Christianisme qu'ils détestent, et dont ils ne croient pas pouvoir diminuer l'influence et préparer la ruine d'une manière plus efficace qu'en se faisant les panégyristes et les apôtres dévoués de la Renaissance. Parce que ces gens ont une haine de notre Seigneur Jésus-Christ, ont compris qu'en faisant des cervelles païennes, imprégnées d'esprit de la Renaissance et donc de l'esprit de l'Antiquité païenne, eh bien, tous ces jeunes qui seraient corrompus ainsi perdront la foi catholique. Et c'est ce qu'ils veulent. Donc quoi qu'il en soit, D'Alembert ne cesse ainsi de redire avec toutes les générations de collèges, depuis 3 siècles jusqu'à nos jours, que le Moyen-Âge est un temps de barbarie, que le christianisme n'a ni littérature, ni art, ni philosophie. Et à force d'être répété à la jeunesse, ces mensonges grossiers sont aujourd'hui rivés dans les têtes. Rappelez-vous ce que disait Voltaire, « Mentez, 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 il en restera toujours quelque chose. » Et pourtant, la vérité est que le christianisme a sa littérature, sa peinture, sa sculpture, sa musique, ses arts, sa philosophie incomparablement plus riche, plus variée, plus beau, plus en harmonie avec nos besoins intellectuels et moraux que celle de la belle antiquité. L'objet seul est différent. La littérature païenne et celle de la Renaissance qui en est sortie s'exercent sur les objets du monde matériel. Elles ont pour objet l'homme matériel, ou simplement raisonnable, ses sentiments, ses intérêts, ses joies, ses douleurs, ses passions surtout, sans jamais rattacher ses conditions, ses faits de la vie terrestre à la vie surnaturelle. Tout se renferme, comme dans le paganisme, dans l'étroit horizon du temps. Donc tous ces gens n'ont pas compris, ne veulent pas admettre, que l'intelligence qui nous a été donnée par Dieu a pour but de connaître le vrai et de l'atteindre par la volonté. Donc ainsi, l'art païen et l'art de la Renaissance, sans inspiration surnaturelle, c'est-à-dire sans le travail de la grâce, s'exercent uniquement à reproduire ce qu'on appelle la belle nature. Et en vertu de ce principe, l'idéal céleste est complètement écarté. Et comme la belle nature se trouve surtout dans l'homme et dans la femme, l'art s'est étudié à reproduire non seulement sans rougir, mais encore comme une sorte d'obligation envers lui-même, toutes les nudités les plus révoltantes. Et ça, c'est l'esprit de la Renaissance. Et pour copier dans tous ces détails la belle nature, il a fallu des modèles vivants. Et chaque jour, donc, des milliers de victimes vendent leur pudeur aux prétendues exigences de l'art. Les infamies qui s'exécutent, note Mgr Gaume, les infamies qui s'exécutent dans le secret de l'atelier viennent s'étaler en peinture, en sculpture, en gravure, en bronze, en bois, en marbre, dans les magasins, dans les maisons, sur les places publiques, dans les jardins, dans les palais et quelquefois, hélas, jusque dans les églises. Et on en est venu à tout excuser en disant « c'est un objet d'art ». Oui, mais c'est un art corrupteur dont il s'agit, un art infernal dont les ravages sont d'autant plus terribles que pour en ressentir les meurtrières atteintes, il suffit d'avoir des yeux. Et ces paroles sont très très exactes et très actuelles. Il y a quand même une différence essentielle qu'il faut comprendre entre ces catastrophes du XVIIIe siècle et l'art, entre guillemets, du XXe siècle. Parce que les artistes du temps de la Révolution étaient des gens qui avaient un esprit complètement pourri, mais qui avaient un véritable talent. Il y avait un talent. On voit très bien chez tous ces auteurs, tous ces artistes imprégnés de l'esprit de la Renaissance, un talent certain. Il est évident que Michel-Ange, que David, que Rembrandt, surtout Michel-Ange, Raphaël, etc., avaient un talent, c'est certain. Mais ils vont utiliser leur talent au service, hélas, de la Révolution, justement parce qu'ils vont tomber dans le naturalisme. Aujourd'hui, les gens qu'on considère comme artistes n'ont plus de talent. On trouve parfois des gens qui vont vous dire que les graffitis sur les murs sont des preuves extraordinaires du talent des auteurs de ces graffitis. Mais les auteurs de ces graffitis n'ont aucun talent. Vous prenez par exemple l'art moderne en général, il n'y a pas besoin d'avoir du talent pour faire de l'art moderne. Il suffit d'avoir perdu la foi. Toute personne qui a perdu la foi est capable de faire de l'art moderne. Toute personne qui a gardé la foi catholique verra immédiatement que l'art dit moderne est en fin de compte qu'une gigantesque supercherie. Alors c'est ainsi qu'on voit parfois, il faut avouer, certaines personnes qui peuvent avoir un certain talent, mais comme ils ont mis ce talent au service du laid, au service du faux, eh bien ils vont finir par perdre littéralement leur talent. Un exemple classique, c'est par exemple Picasso. On voit aussi certains chanteurs, aujourd'hui, je parle surtout aux jeunes qui m'écoutent là, certains temps chanteurs qui avaient certainement des talents, par exemple une très belle voix, ou un talent certain en musique, et qui ont gaspillé ces talents qui leur avaient pourtant été donnés par le bon Dieu, et qui ont, par ce gaspillage, qui ont utilisé leurs talents qui étaient certains au service du mal. Je pense par exemple à des chanteurs de mon époque, comme John Baez ou Simon & Garfunkel, qui sont des gens qui ont un talent certain. John Baez, par exemple, avait une voix extraordinaire. Mais au lieu de mettre sa voix au service du beau et du vrai, il a vite compris que pour faire de l'argent, il fallait rentrer dans le système révolutionnaire, et c'est ce qu'elle a fait. Pareil pour Simon & Garfunkel, et pareil pour tous ces chanteurs des années 70-80, si vous voulez, 60-70-80, qui ont utilisé leur talent, qui était pourtant certain, au service du mal. Alors, on continue de suivre Mgr Gaume. Les lettres, dit-il, et les arts tels que nous les voyons depuis 3 siècles dans l'Europe chrétienne sont, suivant d'Alembert, les fruits de la Renaissance, dont nous lui devons encore l'esprit philosophique. L'esprit philosophique dont nous parle d'Alembert et qu'il met au-dessus de tous les bienfaits de la Renaissance n'est pas autre chose que la souveraineté absolue de la raison ou, suivant le langage d'aujourd'hui, le rationalisme. Dans les siècles chrétiens, l'humanité avait aussi son esprit philosophique. Où, donc, on ne le refusera, nous l'espérons, ni à saint Augustin, ni à saint Anselme, ni à saint Thomas d'Aquin. Mais c'était l'esprit philosophique inspiré, dirigé dans ses investigations par le christianisme et respectueusement soumis à la foi comme le fils à sa mère. Donc la gloire de la Renaissance est d'avoir émancipé la raison comme elle a émancipé la société. Au nom de la liberté, on a voulu se déchaîner, si vous voulez, enlever les chaînes que notre Seigneur Jésus-Christ avait placées sur les 3 concupiscences, justement à cause des blessures du péché originel. On a estimé qu'à partir du moment où le bon Dieu, la religion catholique, par surtout la vertu de pénitence, empêchait le développement complet des 3 concupiscences de la chair, des yeux et de l'orgueil, et que donc il fallait se libérer de ce carcan catholique pour pouvoir faire ce que l'on voulait. Ils ne se rendaient absolument pas compte qu'en agissant ainsi, évidemment, ils ont ouvert la porte à toutes les conséquences de ces concupiscences qui n'étaient plus justement contrecarré par les vertus de pauvreté, l'esprit de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, et qui sont à ce moment-là partis comme un étalon sauvage qui n'a plus entre les dents un mort qui permet à celui qui le monte de contrôler la force de l'étalon. Alors l'étalon fait du n'importe quoi parce qu'il n'y a plus rien pour le contrôler, il n'y a plus de garde-fou. Ce que font tous les auteurs révolutionnaire de cette époque, c'est d'enlever les garde-fous que l'Église catholique avait placés sur les âmes pour les protéger. C'est une émancipation intellectuelle, une émancipation morale, une émancipation de toute la société civile, politique et religieuse. Donc la scolastique, c'est-à-dire la philosophie de saint Thomas, qui composait toute la science prétendue des siècles d'ignorance, dit d'Alembert, s'opposait encore au progrès de la philosophie dans ce premier siècle de lumière. On avait permis aux poètes de chanter dans leurs ouvrages les divinités du paganisme parce qu'on était persuadé, avec raison, dit-il, que les noms de ces divinités ne pouvaient être qu'un jeu dont on n'avait rien à craindre. Donc, on voit donc l'influence, si vous voulez, de ces idées révolutionnaires sur l'adoration du corps et l'adoration de la nudité qui se répand à ce moment-là partout, sous prétexte toujours pareil que c'est de l'art. Donc, c'est une note ici de Mgr Gaume, il dit que c'est sur ce beau prétexte qu'on s'obstine à soutenir encore de nos jours que l'étude assidue des auteurs païens n'offre aucun danger. Mais on oublie que les lettrés du collège ont ressuscité autant qu'ils ont pu le culte des divinités païennes. On oublie qu'on puise dans les auteurs païens le rationalisme en philosophie, le naturalisme en religion, le républicanisme en politique, le communisme en société, l'orgueil du régicide et une foule d'idées et de sentiments qui, depuis la Renaissance, ont rendu et rendent encore, en général, les générations de collèges chrétiennement et socialement ingouvernables à cause de l'orgueil. L'orgueil rend l'âme absolument ingouvernable parce qu'on compte sur soi-même au lieu de compter sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc ces sophismes des philosophies des Lumières qui ne tromperaient pas un enfant, mais ils ont cela de précieux qu'ils caractérisent nettement le nouvel esprit philosophique. Constate l'opposition des hommes clairvoyants des 15e et 16e siècles à la libre pensée inaugurée par la Renaissance, démasquant la marche ténébreuse suivie par le rationalisme païen pour envahir de nouveau le monde intellectuel. Malheureusement, les cris d'avertissement, si vous voulez, de Mgr Gaume, un peu après de l'abbé Aubry, par exemple, ne seront pas entendus. Alors, ces intelligences, si vous voulez, réelles, mais qui refusent de se, de se protéger par les principes catholiques vont être attirés par tout ce qui brille. Donc ils vont être attirés par les principaux apôtres de la nouvelle philosophie, comme Bacon, Descartes, Locke, Newton. Donc pour compléter cet éloge, dit Mgr Gaume, traçons en passant le portrait moral de celui de ces illustres personnages que d'Alembert appelle le plus grand, le plus universel et le plus éloquent des philosophes, à savoir Bacon. Il était un vil flatteur de la reine Élisabeth en Angleterre. Il justifia la condamnation du comte d'Essex, son bienfaiteur, et se fit abhorrer de toute l'Angleterre. Plus vil encore auprès de Jacques Ier, il reçut pour prix de ses adulations le titre de chancelier. Dénigrement de ses rivaux, flagornerie auprès des grands, l'histoire ne mentionne pas une bassesse, pas une manœuvre indigne que Bacon n'ait commise pour parvenir à cette charge. La philosophie de la Renaissance n'était donc pas plus alors qu'elle ne l'a été depuis un frein sérieux aux passions. Dans Bacon, elle laissait libre carrière à l'ambition, à la cupidité. C'est-à-dire que qu'est-ce que vont faire ces philosophes? Ils vont enlever, encore une fois, les garde-fous des passions. Les passions ne seront plus contrôlées par la vérité, encore moins contrôlées par l'intelligence. Il n'y aura plus la grâce pour surnaturaliser tout ça. Et donc, les passions vont se laisser libre cours pour absolument tout détruire. Et détruire tout ce qui sent même de loin le catholicisme. Quant à Descartes, dont la philosophie a été condamnée tout à la fois par la Sorbonne, par Rome et par le synode protestant, d'Alembert, qui le reconnaît pour un de ses aïeux, en parle en ces termes de Descartes. Au chancelier Bacon succéda l'illustre Descartes. Cet homme rare avait tout ce qu'il faut pour changer la face de la philosophie. Descartes a osé montrer aux bons esprits, a secoué le joug de la scolastique, de l'opinion, de l'autorité, en un mot, des préjugés et de la barbarie, et par cette révolte dont nous recueillons aujourd'hui les fruits, il a rendu à la philosophie un service plus essentiel peut-être que tous ceux qu'elle doit à ses illustres prédécesseurs. On peut donc regarder Bacon comme un chef, ou Descartes, comme un chef des conjurés qui a eu le courage de s'élever le premier contre une puissance despotique et arbitraire et qui, en préparant une révolution éclatante, a jeté les fondements d'un gouvernement plus juste et plus heureux qu'il n'a pu voir établi. Et cet amour, si vous voulez, de la philosophie naturaliste païenne, va entraîner un aveuglement total des intelligences. Une cécité intellectuelle telle que ces philosophes vont se retrouver dans l'incapacité de revenir à une philosophie catholique. Si au contraire, au lieu d'avoir été formés dans les collèges jésuites dans lesquels ils avaient été formés justement, s'ils avaient été formés dans la philosophie de saint Thomas d'Aquin, ils auraient été protégés naturellement, je dirais, contre toutes ces horreurs. Mais les prêtres jésuites qui les avaient formés, au lieu de leur donner l'amour de la philosophie de saint Thomas d'Aquin, leur avaient donné l'amour des auteurs de la Renaissance et des auteurs païens de l'Antiquité. Donc, c'est évidemment, tous ces jeunes hommes vont tomber dans le sensualisme le plus total. Toute vérité vient de la sensation, disait-il. La sensation est donc le principe universel de nos connaissances, disait d'Alembert. Le plus précieux de nos sens, c'est donc le toucher. C'est par lui que nous distinguons le juste et l'injuste, dont les sensations sont nécessairement différentes. Sentir, c'est être homme. Bien sentir, c'est être philosophe. Se conduire de manière à ne faire jamais approuver à autrui des sensations désagréables, c'est le propre de l'honnête homme et le critérium de la vertu. Telle est, dit Mgr Gaume, la philosophie de d'Alembert, ou plutôt de Locke et des autres sensualistes, élèves du lycée et du portique, et donc de la philosophie, si vous voulez, qui animait en quelque sorte tous les auteurs de la Renaissance et de l'Antiquité païenne. Donc, d'Alembert va aller encore plus loin, donc non seulement, surtout dans son livre « Les éléments de la philosophie », il va non seulement exclure la religion révélée, mais encore la religion naturelle. Donc, si on constatait encore chez certains de ces philosophes des Lumières un certain théisme, ils adoraient au moins, ils acceptaient au moins Dieu comme grand architecte de l'univers. On ne va même pas voir ça chez D'Alembert, qui va rejeter aussi la religion naturelle. Donc, pour lui, l'amour éclairé de nous-mêmes est le principe de tout sacrifice moral. Et donc, ce sensualisme va être la porte ouverte à toutes les infamies morales. Ça me plaît, donc je peux suivre. On peut dire, par exemple, que toutes les horreurs LGBT, toutes les horreurs des sodomites de tout genre aujourd'hui, sont des conséquences directes de ce sensualisme des philosophies des Lumières. Qui se ressemble, s'assemble. C'est une morale de l'égoïsme, si vous voulez. Si bien enseignée par Mably et si logiquement démontrée à la tribune de la Convention, sous le nom de morale calculée, des morales de circonstance. Ça me plaît, donc je suis. Ça ne me plaît pas, donc j'enlève. Alors on fait tout passer au crible de la volonté personnelle, y compris l'Évangile. On a l'impression d'entendre là les théologiens modernes qui vont décortiquer tous les textes de l'Évangile et qui vont dire, bon, ben voilà, ça me plaît, alors je garde dans l'Évangile, ça me plaît pas, alors j'enlève. J'ai vu une fois un commentaire par les modernistes du Notre Père, et le moderniste disait, sans aucune preuve bien entendu, parce qu'il n'en avait pas, il disait, le texte du Notre Père ne vient pas de notre Seigneur Jésus-Christ, c'était inventé après par l'Église, les seuls mots qui viennent vraiment de notre Seigneur, ce sont les deux premiers, notre Père. Tout le reste vient de l'invention des hommes. Donc c'est vraiment ça, une morale de circonstance, une morale calculée, la fin justifiant les moyens. Noble morale, note Mgr Gaume, que cette morale calculée est bien capable de mettre un frein aux passions. Évidemment, les passions vont tout dominer. Quel était donc l'appauvrissement de la raison dans ce XVIIIe siècle où les intelligences d'élite débitaient sérieusement de pareilles bilvésées aux esprits vulgaires qui les acceptaient comme des oracles. Cependant, ce siècle fut élevé exclusivement par des prêtres. N'accusons ni les jésuites ni le clergé séculier, dit Mgr Gaume, mais reconnaissons que dans les collèges, au-dessus de l'enseignement sacerdotal, il en est un autre plus puissant qui avait séduit cette jeunesse infortunée et qu'elle propageait avec ardeur comme elle propagera plus tard les idées républicaines puisées à la même source. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, c'est que on a ouvert une porte et par cette porte, on a fait sauter, si vous voulez, on a ouvert la porte du barrage et toutes les eaux du lac qui étaient contenues, maintenues en force derrière le barrage, vont se précipiter dans la vallée et vont tout emporter. Et donc la philosophie des Lumières va entraîner, et si vous voulez, la mère de toutes les horreurs qu'on entend aujourd'hui, comme par exemple les théories du genre et toutes ces adorations de l'homme que l'on entend aujourd'hui, où on en arrive à dire, à faire croire aux enfants que chaque homme, que chaque enfant peut déterminer par lui-même dès le plus tendre âge s'il veut devenir un homme ou une femme. Encore une fois, on se coupe totalement du réel. Pourtant, le réel est là. Le réel, qu'est-ce que nous dit le réel dans ce domaine de ces horreurs morales? Qu'est-ce que nous dit le réel? Le réel nous dit que toutes les personnes qui ont deux chromosomes X sont des femmes. Et toutes les personnes qui ont un chromosome X et un chromosome Y sont tous des hommes. C'est comme ça. On ne peut pas changer la réalité des choses. Alors vous pouvez changer par des opérations chirurgicales extrêmement lourdes, vous pouvez changer l'aspect extérieur des gens, en modifiant les masses musculaires, en modifiant des tas de choses, mais vous ne pourrez pas changer les chromosomes à l'intérieur des noyaux de chaque cellule. Eh bien non. Malheureusement, les gens sont devenus tellement bêtes, noyés en quelque sorte par ces fausses philosophies issues de l'Antiquité, issues de la Renaissance, issues du protestantisme, issues de la Révolution française, que la vérité n'existant plus, on peut faire du n'importe quoi. Et souvent, lorsque ces jeunes qui sont passés par ces opérations chirurgicales actuelles extrêmement lourdes de changement de sexe, arrivent à 20 ou 25 ans et commencent un peu à ouvrir les yeux, c'est trop tard. Alors ça se termine en général par un suicide. Donc reprenons cette phrase de Monseigneur Gaume, n'accusant ni les jésuites ni le clergé séculier, mais reconnaissons pardon, que dans les collèges, au-dessus de l'enseignement sacerdotal, il en est un autre plus puissant qui avait séduit cette jeunesse infortunée, qu'elle propageait avec ardeur, comme elle propagera plus tard les idées républicaines, puisées à la même source. Donc le démon, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que le démon, au début, va travailler selon la nature. Et lorsque la nature elle-même est complètement détruite, le démon va à ce moment-là commencer une autre étape, l'étape contre nature. On est en plein dedans aujourd'hui. La civilisation du droit des sodomites, la civilisation des droits de choisir son propre sexe, etc. Ce sont des civils, c'est une civilisation, ce sont des droits qui vont contre la nature, contre le bon sens. Donc on a détruit la nature, et maintenant pour être sûr que la nature ne pourra jamais revenir, le démon va tordre littéralement les premiers principes dans l'âme des gens modernes pour être certain de posséder de façon définitive les âmes de ces gens-là. Et après, il n'a plus qu'à ramasser les marrons et tirer les marrons du feu. Vous voyez, on voit très bien dans ces idées des philosophies des Lumières, comment les philosophes des Lumières, donc on est juste avant la Révolution, dans l'équipe de Voltaire, vont en arriver à détruire complètement les premiers principes. Destruction des principes de causalité, destruction des principes d'identité, destruction des principes de non-contradiction, pour que le réel disparaisse totalement. Donc, ils vont faire vivre, préparer les gens à vivre dans un monde complètement déconnecté de la réalité, un monde virtuel. La vie du monde moderne est une vie entièrement virtuelle. Elle n'est même plus connectée au réel. Si vous voulez, c'est la philosophie ou la théologie, comme vous voulez, des écrans. Les écrans qui remplacent l'intelligence. Donc, du bien-être physique posé comme principe générateur de la morale, il faut jouir. D'Alembert va déduire logiquement l'aumône obligatoire en attendant que la révolution plus logique encore en déduise le communisme, ce rêve chéri de tous les admirateurs de la belle antiquité. Tous ceux, disait d'Alembert, qui ont plus que le nécessaire relatif, doivent à l'État au moins une partie de ce qu'ils possèdent au-delà. Donc logiquement, d'Alembert, en suivant les principes de Voltaire, va arriver à la destruction du principe de propriété. Seulement, bon Dieu reste le patron, et d'Alembert, comme tout le monde, va mourir. Et elle trouva d'Alembert au milieu du monde païen où il était entré dès l'enfance et où il avait passé toute sa vie, et dans lequel, hélas, il devait mourir. Son dernier amusement fut de deviner les énigmes de Mercure, sa dernière occupation de corriger sa traduction de Tacite. Telle fut sa préparation à la mort, dit Monseigneur Gaume. Ses recommandations de l'âme consista dans ses dernières Sa recommandation de l'âme, pardon, consista dans ces dernières paroles qu'il adressa à son confrère de l'Académie, Pougins, Entendez-vous ma poitrine qui s'emplit? Et il est mort le 29 octobre 1783. Il y a une note de Monseigneur Gaume qui dit, il cite un certain Laharpe qui disait, J'ai assez connu d'Alembert pour affirmer qu'il était sceptique en tout, les mathématiques exceptées. Et n'aurait pas pu prononcer qu'il n'y avait point de religion, qu'il n'aurait prononcé qu'il y a un Dieu. Seulement, il trouvait plus de probabilité au théisme et moins à la révélation. Donc, ce scepticisme généralisé, évidemment, lorsqu'on tombe dans le scepticisme absolu à ce degré-là, bon, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est le suicide, littéralement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Pour ça qu'il y a tellement, tellement de suicider parmi les jeunes aujourd'hui parce qu'ils ont perdu le contact avec la réalité. Nous allons maintenant commencer donc le chapitre 20, toujours dans ce volume numéro 5 de Monseigneur Gaume. Après avoir donc suivi ses premiers encyclopédistes, ici, Monseigneur Gaume va nous parler d'Helvétius. Bon, Helvétius va suivre exactement la même ligne de destruction déjà préparée par Voltaire. Alors, Mgr Gaume va partir d'une très belle citation de l'évêque de Poitiers, 1855, Mgr Pie, dans son instruction synodale, dans laquelle Mgr Pie combat avec vigueur la philosophie actuelle dont les principes conduisent à la destruction de toute religion et de toute société. Puis l'éloquent prélat pousse le cri d'alarme et établit preuve en main que la philosophie de nos jours a entrepris de nous faire revenir sous prétexte de religion jusqu'au paganisme. Voilà la citation de Mgr Pie, citée ici par Mgr Gaume. Oui, messieurs, il parle à ses prêtres, je n'exagère rien, la philosophie de ce temps a une prédilection marquée pour le paganisme, pour ses dogmes aussi bien que pour sa morale. Celui-ci n'hésite pas à regretter les vieilles divinités de la Gaule. Celui-là nous propose sérieusement d'abandonner un dogme qui, selon lui, n'appartient pas à l'essence de la révélation chrétienne, le dogme de l'éternité des peines et des récompenses, pour revenir sous l'action de l'esprit progressif de la France à la croyance des druides, c'est-à-dire à l'antique métempsychose interprétée à l'aide de l'astronomie, de la géologie et de la philosophie moderne. Donc ici, Mgr Pie, le cardinal Pie plus exactement, nous parle de l'influence et le retour à la croyance des druides. Donc c'est au retour au paganisme, encore une fois, au manichéisme druidique. Et ce n'est pas pour rien que c'est ce retour aux religions anciennes païennes d'avant le christianisme est remis en honneur aujourd'hui, surtout chez les jeunes. Beaucoup de jeunes se sont fait rouler par ces croyances des druides. Et on trouve ça surtout dans le nord de l'Europe, en Allemagne, mais aussi un peu en France. Donc on accuse l'Église catholique évidemment d'avoir détruit cette magnifique religion naturelle des druides et ça va entraîner encore une fois l'adoration totale de la nature. Dans les mêmes esprits, si vous voulez, on trouve par exemple toutes les philosophies, parce que c'en est une, la philosophie par exemple des véganes qui considèrent qu'il ne faut pas manger du tout aucune nature vivante. Donc on ne mange pas de veau, de porc ou de poulet parce que ce sont des choses vivantes. Et donc littéralement, ils deviennent non seulement végétariens, mais en plus ils en arrivent à une folie complète. Parce que s'ils étaient logiques avec eux-mêmes, il n'y aurait plus qu'une seule solution pour les véganes, c'est se laisser mourir de faim. Parce que s'il ne faut pas manger de viande parce que c'est vivant d'origine, il ne faut pas non plus manger de feuilles de salade parce qu'une feuille de salade, c'est vivant. Et donc, il devrait aussi arrêter de manger des légumes et donc se laisser mourir de faim. Malheureusement, ces fausses philosophies ont fait un dégât énorme. Il faut faire attention parce que certains de nos fidèles se font un peu tenter par cela. Encore une fois, j'ai rien contre tous ceux qui font attention à se nourrir correctement, à ne pas manger de nourriture frelatée, détruite par les produits chimiques, etc. Mais faites attention à cet état d'esprit naturaliste qui envahit maintenant toute une partie de la population en France, surtout de gens donc, qui veulent faire tellement attention à ce qu'ils mangent qu'ils en deviennent des adorateurs littéralement de la nourriture. On trouve ça aussi un petit peu dans les gens qui suivent de façon un peu trop déséquilibrer la nourriture biologique. J'ai rien contre la nourriture biologique, mais si on pousse les choses à l'extrême, on finit par adorer la nourriture biologique. Alors là, attention, parce qu'on retrouve cette croyance des druides dont parle ici Mgr Gaume et le cardinal Pie. L'adoration de la nature, l'adoration de la nourriture, l'adoration de l'homme, c'est toujours la même chose. Et donc, selon ces philosophes, qui considèrent que les anciens de la Renaissance et de l'Antiquité païenne étaient d'excellents directeurs spirituels de l'humanité. Leur morale ne manquait, disent-ils, d'aucune des garanties désirables. Elle était presque aussi précise que celle des pères de l'Église. Cette philosophie ancienne était populaire et pratique et s'adressait à tout le monde. Elle possédait une sanction très suffisante. Enfin, elle avait son mobile presque surnaturel et on y trouve la doctrine de la grâce dans toute sa sévérité, une espèce de naturalisation de la grâce. Aussi, les saints du christianisme étaient mis naturellement en parallèle, en société, avec les héros païens. Alors, ils en arrivaient à dire, par exemple, l'âme du dernier des Brutus, si l'âme du dernier des Brutus et si l'âme de Saint Louis s'était racontée elle-même, quelle belle psychologie morale nous aurions. Donc, on descend Dieu au niveau de l'homme et on monte l'homme au niveau de Dieu. Donc, toute pensée qui se déploie, toute voix qui s'élève sans entrave, rend témoignage, disent ces philosophes des Lumières, rendent témoignage de la gloire du XVIIIe siècle et de son bienfait. Montesquieu, Voltaire, Rousseau sont donc des puissants génies et qui sont devenus des gens immortels. On leur donne des noms immortels. Donc les philosophes du XVIIIe siècle, bien qu'instruits par le clergé, se déclarent hautement fils de la Renaissance et de leurs études de collège. Les mêmes éloges qu'ils reçoivent de leurs descendants, ils les adressent à leurs aïeux, et nous avons entendu ceux de Voltaire, de Rousseau, de Mabille et de Condorcet, et voici maintenant, annonce Mgr Gaume, un nouveau frère dont la parole mérite d'être écoutée, car il ne tient pas le dernier rang dans la famille philosophique, c'est Helvétius. Et donc il va nous parler maintenant, en ce chapitre, d'Helvétius, Claude Adrien Helvétius, qui est né à Paris en 1715, toujours à la même époque, et qui fut placé dès l'âge le plus tendre au collège des Jésuites. Encore une fois, faites attention de ne pas tomber à bras raccourcis sur les Jésuites sous prétexte que, malheureusement, ce sont les Jésuites qui ont mis ces idées naturalistes, païennes, provenant de l'Antiquité, dans les âmes des jeunes qui étaient formés dans tous ces grands lycées avec comme professeurs des prêtres. Les prêtres étaient jésuites, c'est vrai, mais ce n'est pas du tout l'esprit de Saint Ignace de Loyola. Saint Ignace de Loyola était tout à fait différent, c'est un grand saint canonisé par l'Église catholique, et quand je critique avec Mgr Gaume les jésuites du 19e siècle, ou du 18e siècle, eh bien ce n'est pas du tout Saint Ignace de Loyola que je critique. Continue de prêcher avec grand plaisir les exercices de Saint Ignace qui ont une valeur extraordinaire et qui donnent une force extraordinaire. Alors, voyons un petit peu ce que dit Mgr Gaume de ce d'Helvétius. Helvétius qui lisait les grands modèles de l'Antiquité. Il avait pris le goût à l'étude des lettres et une nouvelle passion vint donner à son esprit une direction qu'il ne devait plus changer. Il étudia la philosophie de Locke. Ce livre fit une révolution dans ses idées et il devint un zélé disciple du philosophe anglais. On voit très bien que son esprit a été perverti par ses fausses philosophies parce que son esprit n'avait pas été formé à la véritable philosophie. Ses maîtres jésuites dans les écoles dans lesquelles il était, l'avaient formé avec les philosophies matérialistes, naturalistes, sensuelles de la Renaissance, et des fausses philosophies de cette époque, et pas du tout avec la véritable philosophie de saint Thomas d'Aquin. Et on peut dire que si Helvétius avait été formé avec la philosophie traditionnelle de saint Thomas d'Aquin, il ne serait pas tombé dans ses erreurs. Mais justement, quand on étudie les fausses philosophies sans avoir d'abord les bases de la véritable philosophie, eh bien on se fait avoir. Et c'est exactement ce qui s'est passé, pas simplement pour Helvétius, mais pour tous les philosophes de ces philosophies des Lumières. Ils n'avaient pas eu la protection d'une véritable philosophie. Pour cela que Mgr Lefebvre, encore une fois avec raison, je vous l'ai déjà dit, mais je répète, Mgr Lefebvre ne voulait pas qu'on étudiât les fausses philosophies, pour les connaître un peu, savoir les critiquer, sans avoir d'abord été formé avec la véritable philosophie de saint Thomas d'Aquin. Il avait raison. Donc voilà ce que dit Mgr Gaume. L'enthousiasme pour cette philosophie rationaliste et sensualiste, l'admiration exclusive pour l'antiquité païenne et l'ignorance ou le mépris de la littérature et de la philosophie catholique, telles sont les dispositions dans lesquelles Helvétius sortit des mains de ses maîtres, et ces dispositions durèrent autant que sa vie. Donc, navire sans lest et sans boussole, nous le verrons voguer à l'aventure et se heurter à tous les écueils. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus de colonne vertébrale. Colonne vertébrale que donne justement la philosophie de saint Thomas d'Aquin. Celui qui est vraiment formé avec la philosophie de saint Thomas d'Aquin est naturellement et surnaturellement protégé par toutes les ineptides de la philosophie des Lumières. Donc, Helvétius va se lier avec Fontenelle, Montesquieu, Condorcet, Voltaire et augmenter cette famille de lettrés et philosophes dans les collèges, dont les collèges du temps remplirent les hautes classes de la société, l'administration, la finance, la magistrature, la cour, les châteaux, les académies et les parlements. Et c'est tout, hélas, ceci est provoqué par la faiblesse des rois de l'époque. Il faut bien avouer ce qui est. Louis XVI, bien qu'il soit mort martyr et ait sauvé son âme par le martyr, avait laissé, si vous voulez, cette philosophie des Lumières s'introduire partout dans son gouvernement. Louis XIV, c'était pareil, encore pire même. Louis XIV avait laissé ses philosophes prendre le pouvoir complet des intelligences en France. Et bien que Louis XIV, semble-t-il, se soit rattrapé juste avant de mourir, en mourant, en regrettant toutes ses erreurs, le mal était fait. Les petits avaient été... ces fausses philosophies s'étaient introduites partout, et même si Louis XVI a sauvé son âme, et peut-être Louis XIV également, eh bien, les philosophies avaient fait des petits partout, et ces fausses idées se sont répandues partout en France et après en Europe. Donc, Mgr Gaume va étudier les principes d'Helvétius, il les résume ici. Toutes les facultés de l'homme se réduisent à la sensibilité physique et nous ne différons des animaux que par l'organisation extérieure. Notre intérêt est fondé sur l'amour du plaisir ou la crainte de la douleur est l'unique mobile de nos jugements, de nos actions et le principe de toute morale. Troisièmement, les notions de juste et d'injuste varient selon les coutumes. Quatrièmement, tous les hommes sont susceptibles des mêmes passions que l'éducation développe plus ou moins. C'est ni plus ni moins le matérialisme le plus abject tel qu'il était compris et pratiqué dans les beaux jours d'Athènes et de Rome, conclut avec raison Mgr Gaume. Bon. Pour Helvétius, comme pour tous les élèves de l'époque, de la Renaissance, et tous les élèves de la Renaissance, le Moyen-Âge, ses arts, ses institutions, sa philosophie sont la honte de l'humanité. C'est un axiome. Voilà en quels termes Helvétius le formule. Que sont les scolastiques? De tous les enfants d'Adam, les plus stupides et les plus orgueilleux. Donc, saint Thomas d'Aquin, les plus grandes intelligences que la terre ait jamais portées, un homme stupide et orgueilleux. Le pur scolastique tient entre les hommes, dit Helvétius, la place qu'occupe entre les animaux celui qui ne laboure point comme le bœuf, ne porte point le bât comme la mule, n'aboie point au voleur comme le chien, mais qui, semblable au singe, salit tout, brise tout, mord le passant et nuit à tous. Le scolastique, puissant en mots et faible en raisonnement, dit-il. Aussi, que forme-t-il? Des hommes savamment absurdes et orgueilleusement stupides. Les siècles d'or des scolastiques furent les siècles d'ignorance dont, avant Luther et Calvin, les ténèbres couvraient la terre. On voit très bien la haine de ces philosophies des Lumières contre la véritable philosophie de saint Thomas d'Aquin. Et on retrouve cette même haine aujourd'hui dans l'Église moderne. Si ces prêtres qui sont aujourd'hui complètement modernistes, avec M. Bergoglio et tous ses petits amis, avaient été formés véritablement avec une bonne et véritable philosophie scolastique dans l'esprit de saint Thomas d'Aquin, ils ne seraient pas devenus modernistes. C'est Saint-Pilice qui fait clairement comprendre que quelqu'un qui est formé avec la véritable philosophie de saint Thomas est protégé naturellement du modernisme. Je ne pas que c'est Saint-Pilice qui a condamné le modernisme en 1907. Donc, ce qui révolte surtout le jeune païen, Mgr Gaume parle ici d'Helvétius, c'est de penser que la scolastique, la théologie, le christianisme enfin, ont altéré la notion de la vraie vertu et rendu la terre veuve des Minos et des Codrus, ces grands saints du collège. Et Helvétius s'écrit, au moment où le christianisme s'établit, que prêcha-t-il? Que le ciel est la vraie patrie des hommes. Ses discours attiédirent dans le laïc l'amour de la gloire, du bien public et de la patrie. Les héros devinrent plus rares, le prêtre se saisit de l'autorité, dit Helvétius, et pour cela conserver, décrédita la vraie gloire et la vraie vertu, et ne souffrit plus qu'on honorât les Minos, les Codrus, les Lycurgues, les Aristides, les Timoléons, enfin tous les défenseurs et les bienfaiteurs de leur patrie. Ô vénérable théologien, ô brute! Donc Helvétius traite les grands théologiens catholiques dans l'équipe, dans l'esprit de saint Thomas d'Aquin, de brutes. Et donc, conclusion, le plus grand obstacle pour Helvétius au retour de la belle antiquité, seul fécond dans lumière et en vertu, c'est donc le clergé. Et donc Helvétius va tomber, encore plus que les autres peut-être, dans un anticléricalisme farouche. Faire attention, parce que aujourd'hui, dans les milieux traditionnalistes, c'est pour certaines personnes un peu une manie d'être fortement anticlérical. Sous prétexte que, c'est vrai, beaucoup de prêtres ont failli, ça ne veut pas dire pour autant que le sacerdoce en lui-même est quelque chose de mauvais. Donc avec une habileté et une violence égales, Helvétius va attaquer le clergé d'abord dans ses richesses. Un des plus grands services à rendre à la France, dit-il, serait d'employer une partie des revenus trop considérables du clergé à l'extinction de la dette nationale. D'aussi le leçon de ses maîtres, la révolution a commencé par là et fini par la banqueroute. Donc passant à l'autorité du clergé, dit Mgr Gaume, l'élève du collège Louis le Grand, Helvétius, continue, il faut que les clergés ne puissent rien sur le citoyen. Donc il faut éliminer toute influence cléricale. La crainte du prêtre dégrade l'esprit et l'âme, abrutit l'un, avilit l'autre. L'esprit religieux fut toujours incompatible avec l'esprit législatif, et le prêtre, toujours l'ennemi du magistrat. Donc on cherche à couper, si vous voulez, l'herbe sous les pieds de tous les religieux pour empêcher l'influence véritablement religieuse des jeunes qui sont formés à l'esprit de la philosophie des Lumières. Tandis qu'Helvétius, Condorcet, Voltaire, élevés par les jésuites, traitent ainsi leurs professeurs en soutane, ils exaltent jusqu'au nu leur véritable maître, les philosophes, les orateurs et les poètes de l'Antiquité. Alors, Mgr Gaume va développer tout cela dans son chapitre 21, donc, pour expliquer comment Helvétius a contribué à l'établissement de cette religion philosophique. Donc, détruire le christianisme en faisant refleurir la religion païenne. Et donc, pour obtenir cela, le moyen, c'est faire refleurir l'éducation classique. Donc, les attaques d'Helvétius, dit Mgr Gaume, contre le clergé, ne sont qu'un premier pas pour arriver à la destruction du christianisme lui-même. Ainsi, aux yeux du disciple d'Anaxagore et d'Épicure, la raison humaine n'a besoin ni de Dieu, ni de révélation pour créer une religion et une morale. Rappelez-vous la formule « ni Dieu, ni maître ». Formule des nihilistes et des révolutionnaires, surtout de la révolution de 1917. Helvétius a la modeste prétention de réaliser ce problème, il en réunit les éléments. Et quelques années plus tard, on verra la Révolution française formée à la même école, mettre la dernière main à cet ouvrage et inaugurer solennellement une religion, une morale de main d'homme. Et quand on étudie un petit peu cette influence désastreuse de la philosophie des Lumières, on peut se demander comment la religion catholique n'a pas complètement disparu. C'est là où on voit que cette religion est véritablement divine. C'était Crétino Joly qui avait dit, je crois que c'était au pape Pie IX, quand je vois tous les mauvais évêques, les mauvais papes, les mauvais prêtres qu'il y a eu dans l'Église catholique, et que je vois que l'Église catholique est toujours vivante, ceci ne peut venir que de Dieu. Et il a demandé le baptême, parce qu'il n'était pas baptisé. Donc, pour Helvétius, le culte catholique porte l'empreinte de l'homme, sous l'esclavage de Dieu, et donc l'empreinte de la fourberie et du mensonge. Alors, dit-il, que la volonté d'un Dieu juste et bon, c'est que les fils de la terre soient heureux et qu'ils jouissent de tous les plaisirs compatibles avec le bien public. Tel est le vrai culte, celui que la philosophie doit révéler aux nations. Donc l'homme est sur terre, d'après Helvétius, pour jouir. Or, ce n'est pas exactement ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il dit? Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc, voilà ce que dit Monseigneur Gaume. Les philosophes de nos jours, qui préconisent la morale de Socrate, en l'appelant la vraie morale de ce monde, qui sourit de pitié au nom des révélations et des morales évangéliques, qui borne tous les devoirs de l'homme aux devoirs sociaux, toutes les vertus aux vertus purement humaines, tous les dogmes à la foi dans la raison. En un mot, qui se disent envoyés pour élever l'humanité en la faisant passer des bras du christianisme dans ceux de la philosophie, ces philosophes ne sont ni des novateurs, ni des chefs d'école, ils sont tout simplement les disciples d'Helvétius, comme lui-même l'était des philosophes païens, et de la philosophie des Lumières, qui reprend la philosophie païenne. Donc c'est le XVIIIe siècle qui a fait ce que sont ces philosophes des Lumières. Voilà ce que dit encore une autre citation d'Helvétius. Des magistrats éclairés seront comme à Rome et à Sparte revêtus de la puissance temporelle et spirituelle, ce qui empêchera tout conflit en ôtant toute contradiction entre les préceptes religieux et les préceptes patriotiques. En attendant que tous les peuples, jaloux de leur bonheur, aient embrassé le vrai culte que la philosophie doit leur révéler, Helvétius examine les deux grandes religions entre lesquelles, faute de mieux, le monde est réduit à choisir. Ces religions sont, d'un côté, le catholicisme, qu'il appelle le papisme, et de l'autre, le paganisme. C'est intéressant de voir que Martin Luther utilisait le même terme pour désigner le catholicisme, à savoir le terme de papisme. Et ce choix cornélien est toujours actuel. Aujourd'hui encore, il faut choisir entre le catholicisme et le paganisme. Le catholicisme, c'est le catholicisme fondé par notre Seigneur Jésus-Christ. Le paganisme, c'est la nouvelle religion de Bergoglio. Lorsque Bergoglio va adorer publiquement les idoles, faire adorer publiquement les idoles de l'Amazonie à Rome, c'est du paganisme pur et simple. Il faut comprendre ces choses-là. L'esprit de Bergoglio est un esprit païen. C'est exactement l'esprit qui va être pris, qu'il a repris des philosophes des Lumières. Donc, pour Helvétius, le catholicisme doit être absolument abandonné, détruit, parce que cette religion est nuisible au genre humain, parce qu'elle n'a aucun des caractères de la religion philosophique. Et il dit, logiquement, le papisme n'est aux yeux d'un homme censé qu'une pure idolâtrie. Pour lui, et ça encore une fois, on retrouve un peu les mêmes idées chez Bergoglio, tout dogme est un germe de discorde et de crime jeté entre les hommes. Quelle est la religion vraiment tolérante? Celle ou qui n'a, comme la religion païenne, aucun dogme, ou qui se réduit, comme celle des philosophes, une morale saine et élevée qui sans doute sera un jour la religion de l'univers. Et là on voit, pointe le bout de son nez, le mondialisme. Et on pourrait vraiment dire que certaines de ces phrases Helvétius pourraient être signées par Bergoglio. Ce n'est pas une exagération. Donc, il y a des choses extraordinaires dans ce que dit Helvétius. Et Mgr Gaume l'explique très bien. Il dit, par exemple, le papisme aime mieux vénérer l'humilité. Mais cette humilité qui favorise la vileté et la paresse doit-elle être la vertu d'un peuple? Non, le noble orgueil fait toujours celle d'une nation célèbre. Donc deux religions, le paganisme avec l'orgueil, contre le catholicisme fondé sur l'humilité. Cette ignorance et cette haine du christianisme, commune à toutes les générations lettrées des derniers siècles et même d'une autre, ne forme, dit Mgr Gaume, qu'un côté de la médaille. Au mépris du christianisme et de ses institutions, l'élève de la Renaissance joint une admiration souvent irréfléchie, mais toujours constante pour l'antiquité païenne. Et on trouve ça évidemment chez Helvétius. En attendant l'avènement de la religion philosophique, la seconde chose que les peuples ont à faire, c'est de retourner au paganisme. Donc horreur de la religion catholique, mépris de la religion catholique et remplacer la religion catholique par le paganisme. Ça, c'est la religion mondiale, la religion planétaire, le nouvel ordre mondial. Si Bergoglio est tellement vénéré par le nouvel ordre mondial, c'est qu'il en a exactement les mêmes principes. Donc, Helvétius va arriver jusqu'à dire « Le paganisme est de toutes les fausses religions la moins nuisible au bonheur des hommes. » Donc, il reconnaît, attention, il reconnaît que le paganisme est une fausse religion, mais qui est une religion pratique. Parce qu'avec le paganisme, on peut faire ce qu'on veut, alors qu'au contraire, avec le catholicisme, on est tenu par un Dieu crucifié qui nous donne une loi. Donc le paganisme, justement, donne cette liberté totale. C'est la religion païenne. Jamais d'obstacle mis par elle au projet d'un législateur patriote. C'est une religion sans dogme, par conséquent humaine et tolérante. Nulle dispute, nulle guerre entre ses sectateurs. Alors qu'au contraire, la religion catholique, dit et pense Helvétius, va entraîner la guerre partout. C'est exactement, encore une fois, ce que dit partout M. Bergoglio. François, à Rome. Et ne me dites pas que j'exagère, parce que c'est exactement ça. Il y a encore une phrase très importante chez Helvétius, ce qui, aux yeux d'Helvétius, constitue la supériorité de la religion païenne. Écoutez bien, c'est son mépris de la chasteté, sa haine de la tyrannie. Pourquoi ? Parce que le paganisme veut la jouissance. Or, qu'est-ce qui empêche la jouissance ? La croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, la religion païenne permet cette jouissance. La religion catholique, c'est l'amour de la chasteté, de la pauvreté, de l'obéissance, alors que la religion païenne, c'est l'amour de la liberté, l'égalité, la fraternité. Et c'est pour ça qu'il dit, et c'est exact pour le révolutionnaire, la supériorité de la religion païenne consiste en son mépris de la chasteté. Et cela va entraîner, évidemment, l'immoralité totale de tous les principes révolutionnaires. Donc, on voit comment aujourd'hui cette révolution a mené à l'esclavage total de la femme, la destruction de la femme, qu'on ne peut pas détruire et donc qu'on va corrompre. Autre phrase, tout roi est un mangeur d'hommes que tout citoyen vertueux doit fuir. Alors, quel moyen de faire refleurir la religion païenne si supérieure au christianisme ? Et Helvétius répond, écoutez bien, le moyen de faire refleurir la religion païenne si supérieure au christianisme, c'est, devinez, l'éducation de collège. Elle remplit l'âme d'admiration pour l'Antiquité classique et émancipe la raison. Qu'un jeune homme, dit Helvétius, soit nourri de la vie des saints, il aura de la vertu des idées différentes de celui qui, livré à des études plus honnêtes et plus instructives, aurait appris pour modèle les Socrates, les Scipions, les Aristides, les Timoléons. Il est impossible que le mot « vertu » ne réveille en nous des idées diverses selon qu'on lit Plutarque ou la Légende dorée. La Légende dorée est un livre fondamental du Moyen-Âge écrit par Jacques de Voragine. C'est ce livre, entre autres, qui a converti saint Ignace de Loyola. C'est un livre qui contenait la vie de tous les saints jusqu'au temps de saint Ignace, pratiquement, donc, surtout tous les saints du Moyen-Âge. Donc c'est les païens. Chez les païens, c'est au Hercule, au Castor, au Cérès, au Bacchus, au Romulus qu'on rend les honneurs divins. Et chez les catholiques, dit Helvétius, c'est à des moines vils, à un Dominique, à un Antoine qu'on décerne les mêmes honneurs. Donc on ne peut pas adorer à la fois. Et là, il faut bien avouer que Helvétius a raison, on ne peut pas adorer à la fois. On vénérait plus exactement Saint Dominique, Saint Antoine et Saint Thomas d'Aquin d'une part, et d'autre part, les dieux païens de l'Antiquité et de la Renaissance. Il faut faire un choix. Soit une religion centrée sur l'homme, soit une religion centrée sur Dieu. Soit la religion catholique, soit la religion moderniste de Bergoglio. Qu'on me présente, dit Helvétius, dans l'histoire ou sur le théâtre, un grand homme grec ou romain, et je l'admirerai, les principes de vertu reçus dans mon enfance m'y forceront. Donc il est logique, avec l'éducation libérale qu'il avait reçue, et l'éducation païenne qu'il avait reçue de la part de ses maîtres. Habitué, dit Mgr Gaume, dès l'enfance à admirer les vertus, les maximes, les actions éclatantes des Socrates, des Aristides, des Catons qui n'étaient pas chrétiens, qui ne se confessaient pas, qui ne communiaient pas, qui ne jeûnaient pas, qui n'assistaient point à la messe, les jeunes gens se prennent à douter de la nécessité de tous ces préceptes et de la vérité de la religion qui les établit. Leur raison s'émancipe. Ils prennent goût au poison de la liberté. Vous voyez ? On peut dire que la pomme qui va perdre Adam et Ève, c'était la pomme de la liberté. Cette émancipation de la raison par l'enseignement classique est d'autant plus inévitable que cet enseignement est, d'après Helvétius, la négation permanente de l'influence des religions sur les vertus et la félicité des peuples. Donc la religion catholique, c'est l'influence de Dieu sur l'homme. La religion des philosophies des Lumières, c'est la religion de l'homme coupé de Dieu. Voilà ce qu'il faut comprendre. C'est un humanisme total. Le mal donc, que fait la religion catholique est réel et son bien imaginaire. Et donc, Helvétius va prêcher un polythéisme total qui est en fait un athéisme, j'ai déjà expliqué. Tout incroyable qu'elle paraisse, la thèse d'Helvétius en faveur du polythéisme sera quelques années plus tard reprise avec éclat par Auclair. Nous ne pressons pas trop de crier à la folie, dit Monseigneur Gaume. Au fond, il n'y a que deux religions dans le monde, il répète, le catholicisme et le paganisme. Le culte de Dieu ou le culte de l'homme, esclave et dupe de Satan. Donc soit la liberté, l'égalité et la fraternité de Satan, soit la pauvreté, la chasteté et l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il adorera l'un et haïra l'autre, ou il haïra le premier et adorera le second. Nul ne peut servir Dieu et Mammon, dit notre Seigneur. Quand l'homme se soustrait à l'empire de la rédemption, il retombe inévitablement et proportionnellement sous l'empire du démon. Ce qui est vrai pour l'homme est vrai aussi pour les sociétés. Donc, dès que l'homme lâche le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, il retombe immédiatement sous l'empire du démon. Et c'est pareil pour la société. Tenons pour certain donc que si l'abandon du catholicisme pouvait devenir complet, les nations modernes n'adopteraient ni le protestantisme, ni le judaïsme, ni le mahométisme, mais le paganisme sous une forme ou sous une autre. Et lorsqu'elle eut rompu avec le christianisme, vers quelle religion gravita la Révolution française? Eh bien, la Révolution française va graviter évidemment vers le paganisme. Donc, logique avec tout cela, Helvétius est républicain-démocrate. J'insiste sur les deux choses, républicain et démocrate. Et dans l'esprit de ces philosophies de Lumière, les deux choses sont inséparables. Un démocrate est républicain, un républicain est démocrate. Je vous ai déjà expliqué qu'on peut être en soi républicain et catholique. C'était le cas, par exemple, de Garcia Moreno, qui était président de la République d'Équateur et parfaitement catholique, tout en étant responsable d'une république, la République d'Équateur. Mais en France, la République est laïque. Dès qu'on parle de laïcisme pour une république, on évacue notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il n'est pas possible, s'il était possible pour Garcia Moreno, dans la deuxième partie, au milieu du 19e siècle, d'être à la fois républicain et catholique, il n'est pas possible, si on suit les principes républicains de la Révolution française et la philosophie des Lumières, d'être républicain et catholique en France. C'est absolument impossible, parce que la République française d'aujourd'hui est une république fille de la philosophie des Lumières, et donc république athée. Qui dit athée, dit laïque. C'est une république laïque qui refuse donc toute influence de Dieu dans la société. On tolère Dieu, l'influence de Dieu dans la vie privée, mais pas dans la vie publique. Donc Dieu n'a plus rien à dire dans la vie sociale, dans la vie politique, dans la vie publique, dans la vie professionnelle. Dieu est toléré à la sacristie et dans l'Église, c'est tout. C'est la négation totale du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Dieu n'a plus rien à dire. Et ils vont être logiques avec eux-mêmes. Les révolutionnaires dans l'équipe de Macron, c'est clair et net, vont vous dire que Dieu n'a rien à dire dans la politique française. Et donc Dieu n'a rien à dire sur le divorce, sur la pornographie, sur le droit des lesbiennes et des homosexuels, sur les droits LGBT, parce que c'est indépendant de toute forme d'influence divine. Et donc Helvétius se retirait dans sa terre, de Voray va passer ses derniers jours à mettre en vers les doctrines sensualistes et rationalistes de Locke et d'Épicure. Et c'est au milieu de cette occupation saine et joyeuse que le 26 décembre 1771, une attaque de goutte remontée lui ôta subitement la vie. Il est mort comme il a vécu. Alors continuons. Vous voyez la richesse de ce volume numéro 5. Je crois que des 5 premiers volumes que j'ai déjà étudiés avec vous, ce volume 5 est certainement le plus riche. Ensuite, Mgr Gaume, qui continue donc d'analyser les philosophies de ces philosophes des Lumières, va parler d'Holbach, H-O-L-B-A-C-H, qui est encore, dit-il, une victime de l'éducation de collège. Paul Thierry, baron d'Holbach, né en 1723 dans le Palatinat, fut amené à Paris dès son bas âge et élevé à la même école que ses jeunes contemporains. Il ne rapporta de ses études qu'un goût passionné pour la belle littérature, la belle philosophie, les beaux-arts, c'est-à-dire la littérature, la philosophie et les arts, tels qu'ils sont enseignés par les grands maîtres et réalisés dans les modèles de l'Antiquité grecque et romaine. Donc, un goût passionné pour la littérature, la philosophie, les beaux-arts païens. En dehors de cette oraison, le jeune d'Holbach ne voit rien, ou plutôt, il ne voit que ténèbres et barbarie. Le monde surnaturel est nul pour lui, ou s'il existe, c'est comme je ne sais quel fantôme importun dont il faut, pour assurer le bonheur du monde, le débarrasser au plus vite. Et à cette tâche parfaitement païenne, d'Holbach consacre sa vie. Correspond tout à fait à ce qu'on nous enseigne dans les écoles modernes, en France. L'histoire de France commence en 1789, et avant, c'est l'époque des ténèbres. Et donc, à peine sorti du collège, l'affinité secrète qui existe entre tous les fils d'une même mère fait rechercher à d'Holbach la société des littérateurs, des philosophes et des artistes qui sont non moins païens que lui, qui pensent comme lui, qui se ressemblent, ça sent. Sa fortune le met en état de faire de sa maison le rendez-vous général des lettrés de profession et d'un grand nombre de jeunes seigneurs qui, comme lui, goûtent et encouragent les tendances religieuses et politiques dont la Révolution française devait être la terrible manifestation. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces salons qui vont faire un mal considérable au XVIIIe siècle? C'est là où la noblesse française va se corrompre, avec une licence qui ne rougit de rien, dit Mgr Gaume. On discute dans ces salons les principes les plus sacrés de la religion et de la société. On les tourne en dérision et on s'excite à les battre en brèche. L'athéisme et le paganisme sont donc à l'ordre du jour. On va étudier le système de la nature. L'athéisme, le matérialisme, le fatalisme, toutes ces erreurs monstrueuses que la Renaissance, à son début, reproduisit dans le monde sous le couvert des anciens philosophes, et que Léon X lui-même au concile de Latran en 1512 flétrit avec tant d'énergie en déclarant que cette philosophie nouvelle était infectée jusque dans ses racines, toutes ces erreurs systématiquement exposées composent l'œuvre de d'Holbach. Le pape Léon X disait « Cette philosophie des Lumières est infectée jusque dans ses racines. » Saint Pie X dira plus tard que c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies. C'est la même chose. Donc, selon d'Holbach, il n'existe rien au-delà du grand tout dont nous faisons partie. C'est un panthéisme. Ces doctrines révoltantes ne sont pas ce qui nous effraie le plus. Ce qui nous fait trembler, dit Mgr Gaume, c'est l'influence, encore une fois, des études païennes sur l'esprit du jeune philosophe. À ces monstrueuses affirmations, il faut des preuves. Où d'Holbach va-t-il les chercher ? Dans le seul monde qu'il connaisse, auprès des seuls maîtres qu'il admire, d'un bond, il s'élance dans l'Antiquité classique et en revient escorté des philosophes de la Grèce et de Rome. Comment va-t-il faire pour faire passer ces nouvelles erreurs? En les mettant tout simplement sous le patronage inévitable de ces auteurs classiques. On retrouve toujours les mêmes choses, les mêmes causes, provoquant toujours les mêmes conséquences. Donc il faut, mes bien chers frères, comprendre ces choses-là. Lorsqu'on explique ces horreurs, Souvent, les gens modernes, même parfois des catholiques, nous disent « Monsieur l'abbé, vous voyez le mal partout, vous exagérez, vous voyez le démon partout, c'est pas si mauvais que ça, la révolution a aussi du bon. » Eh bien, relisez Mgr Gaume. Si vous ne croyez pas l'abbé Lafitte, croyez au moins Mgr Gaume. Voilà ce que dit Mgr Gaume. Négation de la liberté, négation de l'âme, négation de la vertu, négation des miracles, négation du péché originel. En un mot, négation universelle de l'ordre divin, en fait, négation du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Telles sont les conséquences que d'Holbach tire sans détour de ses doctrines en s'appuyant constamment et exclusivement sur l'autorité des auteurs païens. Et donc, c'est le refus total du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ici, Mgr Gaume n'en parle pas directement parce que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ va être nommé comme, expliqué comme dogme de foi que par le pape Pie XI avec l'encyclique Quas Primas. Donc c'est au XXe siècle, autour des années 1925-28. Donc, d'Holbach va plus loin, il va essayer de justifier ses monstrueuses erreurs et de montrer l'influence désastreuse des vérités contraires. Donc si dans son incroyable polémique, il citait au moins une fois Luther, Calvin ou Zwingli, ou quelques réformateurs protestants, ce serait une consolation pour ceux qui prétendent que la philosophie du XVIIIe siècle est fille du protestantisme. Mais non, d'Holbach s'en tient impitoyablement à ses auteurs classiques païens. Il veut qu'on sache bien qu'il n'y a pas eu et qu'il ne connaît pas d'autres maîtres. Donc, La racine de la philosophie des Lumières n'est pas le protestantisme, mais le paganisme païen. Le paganisme de l'Antiquité repris à la Renaissance. Pourquoi ? Parce que le protestantisme était encore plus ou moins chrétien dans le mauvais sens du terme. Si vous demandez à un protestant, est-ce que vous êtes chrétien ? Il va vous dire oui. Pour ça qu'il faut faire attention à l'usage de ce mot chrétien. Nous, il faut parler pour nous de catholiques. Luther ne se prétendait pas catholique, mais se prétendait encore chrétien. C'est-à-dire qu'il croyait au Christ, un Christ revu et corrigé par lui, évidemment. Donc, ce sentimentalisme, ce matérialisme, cette philosophie des épicuriens, si vous voulez, que va défendre d'Holbach, ce sentiment, nous le voyons adopté par les philosophes de toutes les sectes. Par les pythagoriciens, les stoïciens, par les hommes les plus saints, dit-il, et les plus vertueux, la Grèce et de Rome. Et donc parmi ces grands saints de la Révolution, d'Holbach va citer Ovide, Pythagore, Timée de Locrète, Zénon, Cicéron, Sénèque le philosophe et Sénèque le tragique, et les plus saints de tous, Épictète et Marc Aurèle. Alléluia. C'est clair. Donc, cela nous aide à comprendre que la nouvelle religion, la nouvelle philosophie des Lumières est en fait une religion, le culte de l'homme fondé en fait sur le culte païen de l'Antiquité. Suivant d'Holbach, il faut bien se garder de parler aux hommes et aux enfants surtout des fables d'un avenir inutile à connaître et qui n'a rien de commun avec la félicité présente. Donc pour les exciter à la vertu, il faut, à l'exemple des saints de la Grèce et de Rome, de Cicéron en particulier, leur parler de l'immortalité des âmes courageuses qui, peu contentes d'exciter l'admiration de leurs contemporains, veulent encore arracher les hommages des races futures. Donc prêcher les saints du paganisme pour évacuer, éliminer, effacer les saints de l'Église catholique. Et donc, logique avec lui-même, disciple jusqu'au bout du paganisme classique, d'Holbach place le suicide parmi les titres à l'immortalité. Voilà par exemple un texte de d'Holbach. Ô nature, souveraine de tous les êtres, et vous, ces filles adorables, vertu, raison, vérité, soyez à jamais nos seules divinités. C'est à vous que sont dus l'encens et les hommages de la terre. Réunissez, ô déités secourables, votre pouvoir pour soumettre les cœurs. Tirez-nous des abîmes où la superstition, le catholicisme, nous plonge. Brisez dans les mains sanglantes de la tyrannie le sceptre dont elle nous écrase, que l'homme ose enfin s'affranchir, qu'il soit heureux et libre, esclave seulement de vos lois. Et quelques mois plus tard, la Révolution allait réaliser les vœux du baron d'Holbach. Quant à lui, justifiant ainsi que les autres philosophes, cette parole divine, qu'on meurt comme on a vécu, l'arbre tombant du côté où il penche, et qu'on vit comme on a été élevé, d'Holbach va mourir le 21 janvier 1789 en disant qu'il allait, comme tous les animaux, retomber dans le néant. Vous voyez, mes bien chers frères, à quel point il est important de connaître ces bandits, ces démons qui ont tellement fait de mal à notre société, qui ont détruit complètement, littéralement, la France catholique. Alors, nous allons arrêter là. Je n'ai pas terminé encore le cinquième volume. Donc, nous allons terminer. On terminera la prochaine fois avec une généalogie du voltairianisme, une espèce de résumé très bien fait par Monseigneur Gaume. Donc, nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.